Chapitre 21. Journal du docteur Seward.
Il me faut restituer avec exactitude ce qui est arrivé depuis mon dernier enregistrement, en faisant un effort de mémoire. Aucun détail dont je me souvienne ne doit être oublié, et je dois procéder avec le plus grand calme. Quand j'arrivai dans la chambre de Renfield, je le trouvai gisant à terre sur son flanc gauche, parmi une mare de sang luisante. Quand je m'approchai pour le bouger, il devint évident qu'il avait reçu de graves blessures. Les différentes parties du corps ne paraissaient plus liées entre elles par cette cohérence qui est le propre de la santé, même chez un patient léthargique. Comme le visage était exposé, je pus voir qu'il était horriblement contus, comme s'il avait été frappé sur le sol. En effet, c'était de ces blessures au visage que provenait la mare de sang. Le gardien qui était agenouillé à côté du corps me dit, alors que nous le retournions, « Je crois, sœur, que son dos est brisé. Vous voyez, son bras droit et sa jambe droite, et tout le côté droit de son visage sont paralysés. » Comment une telle chose avait pu se produire? Cela dépassait l'entendement du gardien au-delà de toute mesure. Il paraissait bouleversé, et ses sourcils étaient froncés quand il dit « Je ne peux comprendre les deux choses. Il aurait pu se marquer le visage ainsi en frappant sa propre tête contre le sol. J'ai vu une jeune femme faire ça une fois à l'asile d'Eversfield avant que quiconque ait pu l'en empêcher. Et je suppose qu'il aurait pu se briser la nuque en faisant une mauvaise chute de son lit. Mais sur ma vie, je n'arrive pas à concevoir comment les deux choses ont pu se produire à la fois. Si son dos était brisé, il ne pouvait pas se frapper la tête. Et si sa tête était dans cet état avant de tomber du lit, il y aurait des traces de sang. » Je lui répondis, « Trouvez le docteur Van Helsing et priez-le de venir ici sur le champ. Je le veux ici sans retard. » L'homme se dépêcha et en quelques minutes, le professeur, en robe de chambre et en pantoufles, apparut. Quand il vit Renfield à terre, il l'examina attentivement pendant un moment. Puis il se tourna vers moi. Je crois qu'il comprit ma pensée par mon regard, car il dit très calmement, manifestement, à l'attention du gardien. « Ah, un triste accident! Il va avoir besoin d'une surveillance accrue et de beaucoup d'attention. Je resterai avec vous moi-même, mais d'abord je vais m'habiller. Si vous restez là, je serai de retour dans quelques minutes. » Le patient respirait maintenant de façon stertoreuse, et il était aisé de constater qu'il souffrait d'une terrible blessure. Van Helsing fit montre d'une extraordinaire rapidité et revint avec une mallette chirurgicale. Il avait de toute évidence réfléchi dans ce laps de temps et avait pris une décision, car presque avant de jeter un œil au patient, il me murmura « Renvoyez le gardien. Nous devons être seuls avec lui quand il se réveillera après l'opération. » Je dis donc au gardien, « Je pense que ça va aller, Simmons. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le moment. Vous devriez reprendre votre ronde, et le docteur Van Helsing va procéder à l'opération. Venez m'avertir immédiatement si quelque chose d'inhabituel se passe, où que ce soit. » L'homme se retira et nous nous lançâmes dans un examen complet du patient. Les blessures au visage étaient superficielles. La véritable blessure était une fracture ouverte du crâne, qui touchait à la zone de la motricité. Le professeur réfléchit un moment et dit « Nous devons faire diminuer la tension et la ramener à la normale. La rapidité de la suffusion montre l'extrême gravité de la blessure. L'ensemble du système moteur semble être affecté. La suffusion du cerveau va augmenter rapidement. Aussi, nous devons procéder à une trépanation d'urgence, ou bien il sera trop tard. » Comme nous étions en train de parler, nous entendîmes des coups légers à la porte. J'allai ouvrir et trouvai dans le corridor Arthur et Quincey, en pyjama et pantoufles. Le premier dit « J'ai entendu votre employé s'adresser au docteur Van Helsing et lui parler d'un accident. » Alors j'ai réveillé Quincey, ou plutôt j'ai été le chercher, car il ne dormait pas. Les choses évoluent trop vite et de manière trop étrange pour que nous puissions dormir d'un sommeil profond ces jours-ci. J'ai longuement réfléchi au fait que, demain soir, tout pourrait avoir changé. Nous devrons surveiller nos arrières, et aussi en avant, un peu plus que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Pouvons-nous entrer ? Je hochai la tête et tins la porte ouverte pour leur laisser passage, puis je la refermai. Quand Quincey vit la position et l'état du patient, et remarqua l'horrible mare qui trempait le sol, il dit doucement « Mon Dieu, que lui est-il arrivé ? Pauvre, pauvre diable !» Je lui répondis brièvement et ajoutai que nous espérions qu'il reprendrait conscience, à tout le moins pour un bref moment. Il alla immédiatement s'asseoir sur le bord du lit, avec Godalming à son côté, et nous nous disposâmes tous trois à assister au spectacle. « Nous allons attendre, » dit Van Helsing. « Juste le temps suffisant pour définir le meilleur point pour trépaner, afin que nous puissions vite et complètement retirer le caillot de sang, car il est évident que l'hémorragie ne fait que croître. » Les minutes pendant lesquelles nous attendîmes passèrent avec une terrifiante lenteur. Je sentais mon courage défaillir affreusement, et d'après ce que je pouvais voir du visage de Van Helsing, je compris qu'il en était de même pour lui et qu'il redoutait ce qui devait survenir. J'avais peur des mots que Renfield allait prononcer. J'avais véritablement peur de réfléchir, persuadé que mon heure était venue, comme ces hommes dans les légendes qui entendent dans le lointain un cri annonçant leur mort. La respiration du pauvre homme nous parvenait par des halètements irréguliers. À chaque instant, on avait l'impression qu'il allait ouvrir les yeux et parler. Mais alors survenait une nouvelle expiration stertoreuse, et il retombait dans une insensibilité encore plus grande. Habitué comme je l'étais au lit des malades et des mourants, j'étais malgré tout pris par ce suspense grandissant. J'entendais presque le battement de mon propre cœur, et le sang affluant à mes tempes résonnait comme des coups de marteau. Le silence à la fin devint insupportable. Je regardai mes compagnons l'un après l'autre, et je vis à leurs visages épuisés et à leurs sourcils humides qu'ils étaient en train d'endurer la même torture que moi. Nos nerfs à tous étaient exaspérés par ce suspense mortel, comme si une sirène d'alarme avait retenti puissamment au moment où nous nous y attendions le moins. Enfin, il vint un moment où il devint évident que le patient était en train de sombrer. Il pouvait mourir à tout moment. Je levai les yeux vers le professeur et croisai son regard fixé sur moi. L'expression de son visage s'était raffermie lorsqu'il parla. « Il n'y a pas de temps à perdre. Ces mots pourraient sauver de nombreuses vies. J'ai bien réfléchi pendant ces quelques minutes. Il peut y avoir une âme en jeu. Nous opérerons juste au-dessus de l'oreille. » Et sans ajouter un mot, il procéda à l'opération. Pendant quelques instants, la respiration demeura stertoreuse. Ensuite vint une inspiration si prolongée qu'elle semblait déchirer sa poitrine. Soudain, les yeux s'ouvrirent et se fixèrent dans un regard sauvage et désespéré. Cela dura quelques instants, puis le regard s'adoucit, comme par l'effet d'une heureuse surprise. Et des lèvres sortit un soupir de soulagement. Il s'agita frénétiquement tout en disant « Je serai calme, docteur. Dites-leur de m'enlever la camisole. J'ai fait un rêve terrible et ce rêve m'a laissé si faible que je ne puis bouger. » Il essaya de tourner sa tête, mais dans cet effort, ses yeux redevinrent vitreux. Je le repoussai doucement. Puis Van Helsing dit d'une voix calme et grave « Racontez-nous votre rêve, Mr. Renfield. » Comme il entendait cette voix, son visage s'illumina malgré ses mutilations, et il dit « C'est le docteur Van Helsing, comme c'est gentil à vous d'être ici. Donnez-moi de l'eau, mes lèvres sont si sèches, et j'essaierai de vous le raconter. J'ai rêvé. » Il s'arrêta et parut sous le point de s'évanouir, et je demandai discrètement à Quincey « Le brandy, il y en a dans mon bureau, vite !» Il fila et revint avec un verre, la carafe de brandy et une carafe d'eau. Nous humectâmes les lèvres parcheminées et le patient se rasséréna vivement. Il semblait toutefois que son pauvre cerveau blessé eût travaillé dans l'intervalle, car quand il fut tout à fait conscient, il me lança un regard aigu, et avec une confusion de souffrance que je n'oublierai jamais, il dit « Je ne dois pas me raconter d'histoire, ce n'était pas un rêve, mais une sinistre réalité. » Alors ses yeux errèrent tout autour de la pièce, et comme il remarquait la présence de deux silhouettes attendant patiemment sur le bord du lit, il continua « Si je n'en étais pas sûr jusqu'à présent, je le serais grâce à eux. » Pour un instant, ses yeux se fermèrent, non par l'effet de la douleur ou du sommeil, mais volontairement, comme s'il rassemblait toutes ses facultés. Et quand il les rouvrit, il dit précipitamment et avec plus d'énergie qu'il n'en avait jamais dépensé. « Vite, docteur, vite, je me meurs. Je sens qu'il ne me reste que quelques minutes avant de retourner à la mort ou à pire. Mettez encore du brandy sur mes lèvres. J'ai quelque chose à dire avant de mourir ou avant que mon pauvre cerveau écrasé ne cesse de fonctionner. Merci. » C'était cette fameuse nuit après que vous m'avez quitté, quand je vous ai imploré de me laisser partir. Je ne pouvais parler alors, car je sentais que ma langue était liée, mais j'étais tout aussi sain d'esprit, sauf pour cette incapacité, que maintenant. J'étais au paroxysme du désespoir, longtemps après que vous m'avez laissé. Cela m'avait semblé des heures. Alors, soudainement, je fus envahi d'une sorte de paix. Mon cerveau a cessé de s'emballer et j'ai réalisé où je me trouvais. J'ai entendu les chiens aboyer derrière notre maison, mais pas là où ils se trouvaient. Comme il parlait, Van Helsing ne s'y est pas, mais sa main chercha la mienne et l'agrippa avec force. Il ne se trahit pas cependant. Il hocha la tête doucement et dit « Continuez » à voix basse. Renfield s'exécuta. Il vint à la fenêtre dans la brume, comme je l'avais souvent vu le faire auparavant. Mais aujourd'hui, il était bien solide, pas un fantôme. Et ses yeux étaient féroces comme ceux d'un homme qui a faim. Il était en train de rire de sa bouche rouge, ses dents blanches et aiguisées étincelaient dans le clair de lune, quand il s'est retourné pour regarder derrière la ceinture d'arbres dans la direction des aboiements. Je n'ai pas voulu lui demander d'entrer au début, bien que j'ai su qu'il le désirait, comme il l'avait désiré depuis le début. Alors, il a commencé à me promettre des choses, mais pas avec des mots. Il fut interrompu par un mot du professeur. « Comment ?»« En les faisant arriver, comme il avait l'habitude de m'envoyer les mouches quand le soleil brillait. De belles mouches grosses et grasses, avec de l'acier et du saphir sur les ailes, et de gros papillons de nuit, le soir, avec le dos décoré de crânes et de croix d'ossements. » Van Helsing acquiesça et me murmura machinalement « L'Acherontia. Aïtétropos des sphinx. Est-ce ainsi que vous appelez les papillons à tête de mort ?» Le patient continua sans s'arrêter. Alors il commença à murmurer « Des rats, des rats, des rats, et des centaines, des milliers, des millions de rats, chacun d'eux représentant une vie, et des chiens pour les manger, et des chats aussi !» Tous vivants, tous avec du sang rouge et des années de vie devant eux, et non plus seulement des mouches bourdonnantes. Je lui ris au nez, car je voulais le provoquer. Alors les chiens hurlèrent, loin derrière les arbres noirs, dans sa demeure. Il me fit signe à la fenêtre. Je me levai et regardai dehors. Et il leva les mains et parut appeler quelque chose sans utiliser aucun mot. Une sombre masse s'éleva du gazon et prit la forme d'une flamme de feu. Et alors, il écarta le brouillard à droite et à gauche. Et je pus voir qu'il y avait des milliers de rats, leurs yeux rouges étincelants, comme ses yeux à lui en plus petit. Il leva la main et tous les rats s'arrêtèrent. Et je crois qu'il semblait dire « Toutes ces vies, je te les donnerai, et encore beaucoup d'autres, et de plus grandes à travers d'innombrables siècles, si tu te prosternes et me fais allégeance. » Et alors un nuage rouge de la couleur du sang parut s'approcher de moi, et avant que je sois capable de comprendre ce que j'étais en train de faire, je me retrouvais en train d'ouvrir ma fenêtre et de lui dire « Entrez, Seigneur et Maître !» Les rats avaient tous disparu, mais il se glissa à l'intérieur, alors que l'ouverture de la fenêtre n'était large que d'un pouce, tout comme la lune elle-même est souvent entrée par des trous minuscules, pour se tenir devant moi dans toute sa majestueuse splendeur. Sa voix s'affaiblissait, aussi j'humectais à nouveau ses lèvres avec le brandy, et il poursuivit, mais il apparaissait que sa mémoire avait continué à se dérouler pendant l'intervalle, car il reprit à un point plus avancé de son histoire. Je m'apprêtais à lui demander de revenir au point où il en était, mais Van Helsing me murmura « Laissez-le parler, ne l'interrompez pas. Il ne peut pas revenir en arrière. Et peut-être que si nous l'arrêtons une seule fois, il perdrait tout à fait le fil de ses pensées. » Renfield continua « Toute la journée, j'ai attendu de ses nouvelles, mais il n'a rien envoyé, pas même une misérable mouche. Et quand la lune se leva, j'étais plutôt en colère contre lui. Lorsqu'il se glissa à travers la fenêtre, alors qu'elle était pourtant fermée et qu'il ne prit même pas la peine de frapper, je devins furieux. Il ricana d'un air moqueur et sa face blanche surgit du brouillard avec ses yeux rouges et brillants. Il continua comme s'il était le propriétaire des lieux et comme si moi je n'étais personne. Même son parfum était différent lorsqu'il passa près de moi. Je ne pouvais le retenir. Je pensais confusément à Mrs. Harker, qui avait dû pénétrer dans la chambre. Les deux hommes assis sur le lit se levèrent et s'approchèrent, se tenant derrière lui de manière à ce qu'ils ne les voient pas, mais qu'ils pussent mieux l'entendre. Ils étaient tous deux silencieux, mais le professeur eut un sursaut et trembla. Son visage, cependant, se fermait et s'assombrissait. Renfield continua sans le remarquer. Quand Mrs. Harker vint me voir dans l'après-midi, elle n'était pas la même. C'était comme du thé après que la théière a été rincée. À cet instant, nous nous agitâmes tous, mais aucun d'entre nous ne souffla mot. Et il poursuivit. Je ne savais pas qu'elle était là jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Et elle ne se ressemblait pas. Je ne m'intéresse pas aux gens pâles, j'aime les gens sanguins, et son sang à elle paraissait avoir disparu. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais quand elle fut partie, j'y repensai, et cela me rendit fou de savoir qu'il lui avait pris de la vie. Je sentis que mes compagnons tremblaient autant que moi, mais nous demeurâmes parfaitement immobiles. Alors, quand il vint ce soir, je m'étais préparé. Je vis le brouillard flotter à l'intérieur, et je l'agrippai fermement. J'avais entendu que les aliénés avaient une force surnaturelle, et comme je savais que j'étais un aliéné, du moins à certains moments, je résolus d'utiliser ce pouvoir. Ah, il le sentit également, car il fut obligé de sortir du brouillard pour lutter avec moi. Je tins bon, et je pensais même être sur le point de gagner, car je ne voulais en aucun cas le laisser absorber un peu plus de sa vie à elle, jusqu'à ce que je rencontre ses yeux. Ils me brûlèrent, et ma force s'amollit comme de l'eau. Il glissa à travers moi, et quand j'essayais de l'accrocher, il me souleva et me fit voler à terre. Il y eut un nuage rouge devant moi et un bruit semblable au tonnerre, et le brouillard se dissipa en passant sous la porte. Sa voix devenait de plus en plus faible et son souffle de plus en plus stertoreux. Van Helsing se leva instinctivement. « Nous connaissons le pire à présent, » dit-il. « Il est ici et nous connaissons son but. Il se peut qu'il ne soit pas encore trop tard. Armons-nous de la même façon que l'autre nuit. Mais ne perdons pas un instant. Il n'y a pas un instant à perdre. » Il n'y avait aucune nécessité à formuler par des mots notre peur, ni notre résolution. Nous les partagions entièrement. Nous nous dépêchâmes tous et prîmes dans nos chambres les objets que nous avions emmenés dans notre exploration de la maison du comte. Le professeur était déjà prêt, et lorsque nous nous croisâmes dans le couloir, il désigna les objets d'un air entendu et dit « Il ne me quitte jamais, et je ne m'en séparerai que lorsque cette malheureuse affaire sera terminée. Montrez-vous pareillement sage, mes amis. Il ne s'agit pas d'un ennemi ordinaire. Hélas, il est si regrettable que la chère Madame Mina doive en souffrir. » Il s'arrêta, sa voix se brisait, et je ne sais si, dans mon propre cœur, c'était la rage ou la terreur qui prédominait. À l'extérieur de la porte des Harker, nous nous arrêtâmes. Art et Quincey se tinrent en arrière, et ce dernier dit « Devons-nous la déranger ?»« Nous le devons, » dit sobrement Van Helsing. « Si la porte est verrouillée, je la forcerai. » »« Cela ne va-t-il pas l'effrayer terriblement ? Il n'est pas habituel d'enfoncer la porte d'une dame. » Van Helsing répondit solennellement. « Vous avez raison, comme toujours, mais ceci est une affaire de vie ou de mort. Toutes les chambres sont identiques pour le médecin, et même si elles ne l'étaient pas, elles le seraient pour moi ce soir. « Ami John, lorsque je tournerai la poignée, si la porte ne s'ouvre pas, donnez un coup d'épaule, et vous aussi, mes amis. Maintenant !» Il tourna la poignée, mais la porte ne bougea pas. Nous nous lançâmes contre elle, et avec fracas nous l'enfonçâmes, tombant presque tête la première dans la chambre. Le professeur tomba véritablement, et je pus voir par-dessus lui lorsqu'il céda de ses genoux et de ses mains pour se relever. Et ce que je vis me révulsa. Je sentis les poils se hérisser sur ma nuque et mon cœur se figea. Le clair de lune était si brillant qu'à travers l'épais rideau jaune, la pièce était suffisamment illuminée pour nous permettre de voir. Sur le lit, à côté de la fenêtre, était allongé Jonathan Harker. Le visage exténué et la respiration difficile, comme s'il était frappé de stupeur. Plus proche de nous, agenouillé au bord du lit et tourné vers l'extérieur, se trouvait la silhouette blanche de sa femme. À côté d'elle se tenait un grand homme mince, vêtu de noir. On ne pouvait voir son visage qui était tourné de l'autre côté, mais nous reconnûmes tous instantanément le comte par tous les détails et jusqu'à la cicatrice sur son front. De sa main gauche, il maintenait les deux bras de Mrs. Harker au bout de ses bras tendus. De sa main droite, il la tenait étroitement par la nuque, l'obligeant à baisser la tête contre sa poitrine. Sa chemise de nuit blanche était éclaboussée de sang, et une fine coulure descendait le long de la poitrine nue de l'homme que dévoilait son vêtement dégrafé. Leur attitude à tous les deux avait une ressemblance terrible avec celle d'un enfant obligeant un chat à mettre le nez dans une tasse de lait pour le forcer à boire. Lorsque nous nous ruâmes dans la pièce, le comte tourna la tête et eut cet air infernal dont j'avais déjà entendu la description. Ses yeux s'enflammèrent de rouge, emplis d'une ardeur démoniaque. Les grandes narines du nez blanc et aquilin s'ouvrirent et frémirent. Et les grandes dents blanches, derrière les lèvres pleines de cette bouche dégoulinante de sang, s'entrechoquaient comme celles d'une bête sauvage. Il se dégagea en projetant sa victime sur le lit comme si elle était précipitée d'une grande hauteur. Puis il se tourna et bondit sur nous. Mais à ce moment, le professeur était à nouveau sur ses pieds et brandissait devant lui l'enveloppe contenant l'hostie consacrée. Le comte s'arrêta soudainement, exactement comme l'avait fait cette pauvre Lucie à l'extérieur de sa tombe, et recula. Tandis que nous avancions, portant haut nos crucifix, il recula encore et encore. La clarté de la lune soudain s'obscurcit à cause d'un grand nuage noir qui traversait le ciel. Et quand Quincey alluma la lampe à gaz avec une allumette, nous ne vîmes plus rien qu'une vapeur évanescente. La chose que nous ne quittions pas des yeux se coula par le bas de la porte, qui, avec le recul, avait claqué dans sa position première. Van Helsing, Hart et moi, nous nous avançâmes auprès de Mrs. Harker, qui avait entre-temps retrouvé son souffle et qui avait poussé un cri si strident, si sauvage et désespéré, que j'ai l'impression maintenant qu'il résonnera à mes oreilles jusqu'au jour de ma mort. Pendant quelques secondes, elle demeura en proie à un profond désarroi. Son visage était épouvantable, d'une pâleur mortelle qu'accentuait encore le sang qui maculait ses lèvres, ses joues et son menton. De sa gorge coulait un mince filet de sang, ses yeux étaient affolés de terreur. Puis elle se cacha le visage dans ses pauvres mains meurtries, qui portaient sur leur blancheur la marque rouge de la terrible poigne du comte. Et par en dessous nous parvint un long gémissement désolé, qui, par comparaison, fit paraître le bref hurlement, pourtant terrible, moins affreux que cette expression d'un deuil sans fin. Van Helsing fit un pas en avant et ramena la couverture sur son corps, tandis que Hart, après avoir regardé son visage désespérément pendant un instant, sortit en courant de la chambre. Van Helsing me murmura. Jonathan est dans cette stupeur que les vampires, comme nous le savons, peuvent produire. Nous ne pouvons rien faire avec Madame Mina pendant quelques instants, le temps qu'elle retrouve ses esprits. Aussi, je dois le réveiller, lui. Il trempa le bout d'une serviette dans de l'eau froide et commença à en gifler le visage de Harker, sa femme se tenant toujours le visage dans les mains et sanglotant à vous briser le cœur. Je tirai le rideau et regardai dehors par la fenêtre. Il y avait beaucoup de clarté lunaire et je pus voir Quincey Morris courir sur le gazon et se cacher dans l'ombre d'un grand tif. Cela m'intrigua et je me demandai pourquoi il faisait ceci. Mais au même moment, j'entendis la vive exclamation de Harker, qui reprenait partiellement conscience, et je me tournai vers le lit. Sur son visage, de façon bien compréhensible, se lisait un extraordinaire effarement. Il parut hébété pendant quelques instants, puis il parut retrouver toute sa conscience d'un seul coup, et il eut un sursaut. Sa femme fut stimulée par ce mouvement brusque. Et elle se tourna vers lui, les bras grands ouverts, comme pour l'embrasser, mais immédiatement, cependant, elle les referma, et, rassemblant ses coudes l'un contre l'autre, elle tint ses mains devant son visage, et frissonna jusqu'à faire trembler le lit sous elle. « Au nom de Dieu, qu'est-ce que cela signifie ?» hurla Harker. « Docteur Seward, docteur Van Helsing, qu'est-ce que c'est ?» Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Mina, ma chère, qu'y a-t-il? Que signifie tout ce sang? Mon Dieu, en est-on arrivé là? Et se redressant pour s'agenouiller, il frappa sauvagement ses mains l'une contre l'autre. Dieu de bonté, venez à notre aide! Aidez-la! Oh, aidez-la! Dans un bond, il fut hors du lit et commença à se vêtir. Toutes ses facultés réveillées par le besoin urgent de faire quelque chose. « Que s'est-il passé? Dites-moi » hurla-t-il sans s'arrêter. « Docteur Van Helsing, vous aimez Mina, je le sais. Oh, faites quelque chose pour la sauver. Cela ne peut être déjà irréversible. Soyez son gardien, tandis que je m'occupe de lui. » Sa femme, à travers sa terreur, son horreur, son épouvante, prit conscience du danger certain vers lequel il courait. Oubliant immédiatement sa propre peine, elle le saisit et cria. « Non, non, Jonathan, ne me quittez pas. J'ai assez souffert cette nuit, Dieu le sait, sans avoir peur qu'il vous fasse du mal. Vous devez rester avec moi, restez avec ces amis qui vous protégeront. » Son expression devint frénétique tandis qu'elle parlait. Et comme il abandonnait la lutte, elle le força à s'asseoir sur le bord du lit. Et s'accrocha à lui de toutes ses forces. Van Helsing et moi essayâmes de les calmer tous les deux. Le professeur tint son petit crucifix d'or et dit avec un calme incroyable « N'ayez crainte, ma chère, nous sommes là. Et tant que cela est près de vous, aucune chose immonde ne pourra s'approcher. Vous êtes hors de danger pour ce soir, et nous devons faire preuve de sang-froid et tenir conseil ensemble. » Elle frissonna et se tut, la tête appuyée contre la poitrine de son mari. Quand elle releva la tête, la chemise blanche de Harker était tachée de sang à l'endroit où les lèvres de sa femme l'avaient touchée, et aussi là où les petites blessures de son cou en avaient fait perler quelques gouttes. À l'instant où elle s'en rendit compte, elle recula avec un gémissement sourd et murmura à travers des sanglots étouffés « Impur, impur, je ne dois plus le toucher ou l'embrasser. Ou il se pourrait que ce soit moi qui devienne son pire ennemi, moi qui lui donne le plus de raisons d'avoir peur. » À cela, il répondit résolument « C'est absurde, Mina, c'est une honte d'entendre un pareil discours. Je ne supporterai pas qu'on le tienne sur toi, et je ne supporterai pas non plus que tu le tiennes toi-même. Que Dieu me juge sur mes manquements, et qu'il m'inflige la punition d'une souffrance encore plus amère que celle que j'éprouve maintenant, si j'étais responsable par quelque action ou volonté de ma part d'un obstacle entre nous. » Il ouvrit les bras et la tint contre sa poitrine, et pendant un instant, elle resta là à sangloter. Il regarda vers nous au-dessus de sa tête penchée, avec des yeux brillants de larmes au-dessus de ses narines frémissantes. Sa bouche était ferme comme l'acier. Après un moment, les sanglots s'espacèrent et s'affaiblirent. Et alors il me dit, d'une voix volontairement très calme, dont je sentais qu'elle mettait ses nerfs à rude épreuve. « Et maintenant, docteur Seward, dites-moi tout. Je ne connais l'essentiel des faits que trop bien, mais dites-moi comment c'est arrivé. » Je lui dis exactement ce qui était survenu, et il écouta avec une apparente impassibilité. Mais ses narines tremblaient et ses yeux étincelèrent lorsque je lui racontai comment les mains implacables du comte avaient tenu sa femme dans cette terrible et effrayante position, sa bouche collée à la blessure ouverte de sa poitrine. Même à cet instant, cela m'intéressa de noter que, tandis que le visage pâle de souffrance de Harker se convulsait par-dessus la tête penchée de sa femme, ses mains, quant à elles, ne cessait de caresser ses cheveux ébouriffés avec tendresse et amour. À peine avais-je achevé mon récit que Quincey et Godalming frappaient à la porte. Nous les priâmes d'entrer et Van Helsing m'adressa un regard lourd de questions. Je compris qu'ils souhaitaient que nous profitions de leur venue pour détourner autant que possible les pensées des deux infortunés époux de leur propre malheur. Comme je lui faisais un signe d'assentiment, il leur demanda ce qu'ils avaient fait et vu. À quoi Lord Godalming répondit « Je n'ai pu le trouver nulle part dans le couloir ou dans aucune des pièces. J'ai regardé dans le bureau, mais bien qu'il s'y soit rendu, il en était déjà parti. Il a cependant… » Il s'arrêta soudain, avec un regard pour la pauvre silhouette affaissée sur le lit. Van Helsing dit gravement « Allez-y, ami Arthur. Nous ne voulons plus aucun secret. Notre espoir maintenant réside dans une connaissance totale. Parlez librement. » Alors Hart continua. Il s'était trouvé dans le salon et, bien qu'il n'y soit possiblement resté que quelques secondes, il a laissé une sacrée pagaille dans la pièce. Tous les manuscrits ont été brûlés et les flammes bleues crépitaient au milieu de leurs cendres blanches et les cylindres de votre phonographe ont aussi été jetés au feu. Et la cire n'a fait qu'alimenter les flammes. Ici, je l'interrompis. Dieu merci, il y en a des copies dans le coffre-fort. Son visage s'illumina un instant, puis se rembrunit à nouveau quand il reprit. Je me suis rué en bas, mais je n'ai pu trouver aucun signe de lui. Je regardai dans la chambre de Renfield, mais il n'y avait là aucune autre trace, en dehors de… À nouveau, il s'était interrompu. « Allez-y, » dit Harker d'une voix rauque. Aussi, il pencha la tête et, humectant ses lèvres avec sa langue, il ajouta « en dehors du cadavre de ce pauvre vieux. Mrs. Harker leva la tête et, s'adressant à nous l'un après l'autre, elle dit solennellement « Que la volonté de Dieu soit faite !» Je ne pouvais m'empêcher de penser que Hart ne nous disait pas tout, mais comme je supposais qu'il avait une bonne raison pour cela, je ne dis rien. Van Helsing se tourna vers Morris et demanda « Et vous, ami Quincey, n'avez-vous rien à raconter ?»«
Si, un peu, » répondit-il.
« Il se peut que ce soit important, à vrai dire, mais je ne peux pas en être sûr pour le moment. »
Je me disais que cela serait bon de savoir, si c'était possible, où le comte se rendait après avoir quitté la maison. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu une chauve-souris prendre son envol depuis la fenêtre de Renfield et se diriger vers l'ouest. Je m'attendais à le voir, sous une forme quelconque, retourner à Carfax, mais il s'est manifestement dirigé vers un autre repère. Il ne reviendra pas cette nuit, car le ciel rougit déjà à l'est, et l'aube est proche. Nous avons du travail demain. »
Il prononça ces derniers mots avec les dents serrées. Pendant un laps de temps d'environ 2 minutes, il y eut le silence, pendant lequel je n'étais pas loin de m'imaginer entendre battre nos propres cœurs. Puis Van Helsing dit, en plaçant très tendrement sa main sur la tête de Mrs. Harker, « Et maintenant, Madame Mina, pauvre chère, très chère Madame Mina, dites-nous exactement ce qui s'est passé. Dieu sait que je veux vous éviter toute douleur, mais nous devons absolument tout savoir. Car maintenant, plus que jamais, le travail doit être fait avec rapidité et précision et avec une ardeur mortelle. Le jour qui doit voir la fin de tout ceci se rapproche s'il doit arriver. Et c'est maintenant que nous avons une chance de vivre et d'apprendre. » La pauvre chère femme frissonna, et je pus voir la tension de ses nerfs, tandis qu'elle agrippait encore plus fermement son mari et baissait la tête encore plus bas sur sa poitrine. Puis elle releva la tête fièrement et tendit une main à Van Helsing, qui la prit dans la sienne, et après s'être inclinée et l'avoir baisée avec beaucoup de respect, la tint serrée. Elle tenait aussi la main de son mari, qui, de son autre bras, l'entourait d'une manière protectrice. Après un silence, pendant lequel elle remit à l'évidence de l'ordre dans ses idées, elle commença. Je pris la potion soporifique que vous m'aviez si obligeamment donnée, mais pendant un long moment, elle n'eut aucun effet. Je me sentais même de plus en plus réveillé, et des myriades d'images horribles commencèrent à éclore dans mon esprit, toutes en relation avec la mort et les vampires, avec le sang, la douleur et le trouble. Son mari gémit involontairement, alors qu'elle se tournait vers lui et disait, aimante, « N'ayez pas peur, mon cher. Vous devez être courageux et fort, et m'aider dans cette horrible tâche. » Si seulement vous saviez ce qu'il m'en coûte d'articuler un seul mot sur cette chose effrayante, vous comprendriez à quel point j'ai besoin de votre aide. Pour revenir à mon récit, je compris que je devais aider la potion avec ma volonté, si je voulais qu'elle fonctionne un tant soit peu, et je pris la résolution de m'endormir. Cela, sans doute, ne prit pas longtemps, car je n'ai aucun souvenir ultérieur. Il y avait dans la pièce la même vapeur fine que j'avais remarquée auparavant. Mais je ne sais plus à présent si je vous en ai parlé. Vous trouverez ces détails dans mon journal que je vous montrerai après. Je ressentis la même terreur vague qui m'avait déjà envahi et la même impression d'une présence. Je me tournai pour éveiller Jonathan, mais le trouvais si profondément endormi qu'il me semblait que c'était lui qui avait pris le somnifère, et pas moi. J'essayai, mais ne parvins pas à le tirer du sommeil. Cela me fit très peur, et je regardai autour de moi, terrifié. Alors, littéralement, mon cœur chavira en moi. À côté du lit, comme s'il était sorti du brouillard, ou plutôt comme si le brouillard lui-même avait pris sa forme, car il n'y en avait plus du tout dans l'air, se tenait un homme grand et mince, tout de noir vêtu.
Je le reconnus immédiatement aux descriptions qui m'en avaient été faites. Le visage de cire, le long nez aquilin, sur lequel la lumière tombait en une fine ligne blanche, les lèvres rouges disjointes, dévoilant le bout des dents blanches et pointues, et les yeux rouges qu'il me semblait avoir vus dans le soleil qui se couchait sur les vitraux de l'église Sainte-Marie à Whitby. Je reconnus aussi la cicatrice rouge sur son front à l'endroit où Jonathan l'avait frappé. Pendant un instant, mon cœur se figea, et j'aurais hurlé si je n'avais été paralysé. Dans cet intervalle, il parla dans un murmure vif et cinglant, tout en montrant Jonathan du doigt. « Silence. Si vous faites un seul son, je le prendrai, et je lui ferai sauter la cervelle sous vos yeux. » J'étais épouvanté et trop désorienté pour faire ou dire quoi que ce fût. Avec un sourire moqueur, il plaça une de ses mains sur mon épaule, et, me tenant fermement, il dénuda ma gorge de l'autre main, tout en disant « Tout d'abord, un petit rafraîchissement pour me récompenser de mes efforts. Vous pouvez vous tenir tranquille, ce n'est pas la première fois, ni même la seconde, que vos veines apaiseront ma soif. » J'étais abasourdi et, assez étrangement, je n'avais pas envie de l'en empêcher. Je suppose qu'il s'agit là d'un effet de son pouvoir maudit lorsqu'il arrive à toucher sa victime. Et, oh mon Dieu, ayez pitié de moi, il plaça ses lèvres fétides sur ma gorge. Harker gémit à nouveau. Elle serra sa main plus fort et le regarda avec compassion comme si c'était lui qui avait été blessé, et elle continua. Je sentis mes forces s'épuiser et me trouvai à demi pâmé. Je ne sais combien de temps cette affreuse chose dura, mais il me sembla qu'un long moment s'était écoulé avant qu'il retirât son immonde, son affreuse bouche grimaçante. Je la vis dégoûtée de sang frais. Ce souvenir, pendant un instant, parut la submerger, et elle s'affaissa et se serait sans doute écroulée sans l'appui du bras de son mari. Elle fit un grand effort pour se reprendre et continua. Alors, il s'adressa à moi d'un air moqueur. « Ainsi comme les autres, vous voulez mesurer votre cerveau au mien. » Vous souhaitez aider ces hommes à me pourchasser et à m'empêcher d'accomplir mes desseins. Vous savez maintenant, et ils savent aussi en partie, et ils sauront parfaitement avant longtemps, ce que cela signifie de se mettre en travers de ma route. Ils auraient bien dû garder un peu d'énergie pour s'occuper de leur propre maison. Tandis qu'ils rivalisaient d'esprit pour me contrer, moi qui ai régné sur des nations, qui ai intrigué et combattu pour elles, des centaines et des centaines d'années avant leur naissance, moi, je déjouais leurs plans. Et vous, la prunelle de leurs yeux, vous êtes à présent pour moi comme la chair de ma chair, le sang de mon sang, comme ma propre descendance, la source abondante de mon vin pour un temps. Et très bientôt, ma compagne et mon secours. Vous serez vengés à votre tour, car aucun d'entre eux ne peut subvenir à vos besoins. Mais vous devez cependant être punis pour ce que vous avez fait. Vous les avez aidés à me contrecarrer. Maintenant, vous vous rendrez à mon appel. Quand mon cerveau vous dira « Venez », vous viendrez, par monts et par vaux, obéir à mon commandement, et à cette fin, voici. » Sur ces mots, il ouvrit sa chemise, et à l'aide de ses longs ongles pointus, il ouvrit une veine dans sa poitrine. Quand le sang commença à sourdre, il saisit mes deux mains dans l'une des siennes, et les tint fermement, tandis que l'autre s'emparait de mon cou et pressait ma bouche contre sa blessure, afin que je ne puisse plus que suffoquer ou avaler une partie de « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait pour mériter un tel destin ? Moi qui ai toujours essayé de suivre le chemin de l'obéissance et de la rigueur pendant toute ma vie. Dieu, ayez pitié de moi. Jetez un regard à une pauvre âme qui se trouve dans un péril plus que mortel. Et, dans votre miséricorde, plaignez aussi ceux à qui cette âme est chère. » Alors, elle commença à frotter ses lèvres, comme pour en effacer la souillure. Tandis qu'elle racontait sa terrible histoire, l'aube pointait à l'est, et tout s'éclaircissait. Harker était toujours immobile et silencieux, mais son visage, à mesure que le récit monstrueux se déroulait, prenait une teinte de plus en plus grise, qui ne faisait que s'accuser dans la lumière de l'aube, jusqu'au moment ultime où, dans les premiers rougeoiements du soleil matinal, nous vîmes que sa peau n'apparaissait plus sombre que par contraste avec ses cheveux devenus blancs. Nous sommes convenus que l'un d'entre nous restera toujours à portée de voix du malheureux couple, jusqu'à ce que nous puissions nous réunir et discuter de la suite de notre action. Je suis sûr d'une seule chose. Le soleil d'aujourd'hui, dans sa grande course quotidienne, ne pourra pas briller sur une maison plus malheureuse.
Fin du tome 3.